Ouverture, une émission proposée et animée par Christine Baron.
C'est toujours exaltant de commencer une nouvelle année. D'abord parce qu'on se souhaite tous plein de bonnes choses. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Ce que je vous souhaite à tous évidemment en ce mois de janvier 2020. Et quand en plus l'année s'annonce aussi prometteuse, 2020 c'est un peu un 20 sur 20, non ? 20 sur 20, une super note pour la troisième édition de notre quatrième de couverture, qui espère vous donner en quelques mots, comme la quatrième de couverture d'un livre, l'essentiel de ce qu'on a aimé, le meilleur de ce qui va arriver en aiguisant votre curiosité et votre appétit. Alors, quoi de neuf dans la quatrième de couverture de janvier sur Radio Albatros ? On va revenir sur quelques bons moments de décembre. On découvrira la quatrième de couverture d'un homme de théâtre, Yvan Durus. On ouvrira une parenthèse littéraire parisienne pleine de nostalgie avec Henri Calais. Et on sortira nos agendas pour le mois de janvier. Allez, hop, en route pour la troisième édition. Évidemment, en décembre, on a été emporté par les fêtes dont on sort à peine. Difficile d'avoir échappé aux joyeux marchés de Noël qui ont animé nos places, des grandes villes aux petits villages, aux fêtes proposées aux familles et aux enfants autour des sapins et des pains d'épices, et des spectacles aux quatre coins, de Saint-Valéry à Saint-Jouin, à Fécamp ou au Havre, des parades dans les rues, des déambulations, ou des expositions éphémères comme celle proposée à la Forge d'Harfleur sur les lettres au Père Noël ou les trésors de la French Line à la Maison du Patrimoine au Havre. Parce qu'on aime toujours autant retrouver les traces de cette belle époque, celle des paquebots, dont la nostalgie palpite toujours sur les quais qui ont accueilli le Normandie ou le France. Et en déambulant ici ou là, à Étretat, à Bénouville, aux Loges, on a peut-être croisé un cinéaste célèbre qui vit ici, c'est Xavier Beauvois, grand prix du jury en 2011 à Cannes pour Des hommes et des dieux. Parce que pendant 37 jours, il a multiplié les prises pour son prochain film dont le titre évidemment nous a marqué, L'Albatros. Eh bien oui, sortie prévue cette année en 2020, on va surveiller ça parce qu'une histoire de pêcheur entre Étretat et Fécamp, on ira. En décembre, un autre cinéma a fait parler de lui. C'est celui des séries télé. Les cinquièmes rencontres nationales du Havre ont réuni tous ceux qui privilégient souvent ces films à la maison, aux salles obscures. Et le thème choisi cette année, la police, avait de quoi faire frissonner le public. Et là encore, notre région était mise à l'honneur, et plus particulièrement la ville du Havre, qui a servi de décor à Deux flics sur les docks, et plus récemment à Mortel, disponible sur Netflix depuis un mois. Une ville longtemps mal aimée depuis sa reconstruction, mais qui attire depuis son classement à l'UNESCO de plus en plus d'artistes séduits par son ambiance si particulière. Elle retrouve donc pour les cinéastes contemporains l'attrait qu'elle avait avant la guerre, quand ses quartiers populaires et ses paysages industriels ou portuaires séduisaient les réalisateurs. Marcel Carné pour Quai des Brumes en 1936, Jean Renoir en 1938 pour La Bête humaine, d'après le roman d'Émile Zola, et un peu plus tard, en 1949, Un homme marche dans la ville de Marcello Pagliero, un film tourné dans une ville à peine sortie de ses ruines. Une nouvelle page s'écrit aujourd'hui et le génie de Perret offre au Havrais un bel avenir. D'autres se tournent aussi vers le passé pour lui offrir une nouvelle vie, une renaissance, tout en gardant une pointe de nostalgie qui nous émeut toujours. À Lillebonne, Julio Bona a accueilli une troupe de chanteurs, debout sur le zinc. Ben voilà, tout est dit. Le zinc, ben oui, c'est le bistrot. Un mot que le gabin de La Bête humaine de Carné employait facilement. Un mot qui grasseille un peu, mais qui évoque ces cafés qui disparaissent peu à peu, mais qu'on adore fréquenter. D'ailleurs, pour les 500 ans du Havre, les organisateurs avaient dressé la liste des meilleurs bistrots du Havre, les rades, bien nommés ici, dans un port évidemment. Des endroits dont on décolle difficilement, bref, un mot d'argot savoureux. Eh bien, notre troupe de jeunes chanteurs, debout sur le zinc, est venue présenter à Lillebonne son dernier spectacle sur Boris Vian, en reprenant ses chansons plus ou moins célèbres. On a bien fait de passer son « Je suis snob » en décembre, qui lui avait demandé des mois de turbin. Enfin, un autre spectacle en chanson a connu un grand succès en décembre, c'est le spectacle « Les vieux plats à la carte », accueilli au café « Le bel ami » à Gonneville-la-Mallée. Voilà 10 ans que « Jour de lecture » réunit les amoureux des mots et de la culture dans le café de Pascal Vautier, qui est devenu un rendez-vous de plus en plus apprécié. Alors, quand Denis Gancel a commencé à écrire les mémoires de cet estaminet historique, Isabelle Ferron et Yvan Durus, les comédiens, se sont emparés du texte, Yves Coudray, le ténor, et Anaïs Hugo-Ballan, soprano, des airs d'Offenbach, et Lise Bouchard s'est mise au piano. Et de quoi était-il question dans ce spectacle ? De la grande bâtisse, actuellement désossée, qui a hébergé du beau monde pendant un siècle. Monet, Gide, Hugo, Churchill, Maurice Leblanc, Gabriel Fauré, Maupassant, un lieu inoubliable, avec des assiettes qui décoraient la façade, du piano qui animait les soirées et des repas délicieux concoctés par la patronne. Inoubliable, voyez vous-même.
En entrée, vous dégusterez
melon glacé et hors-d'œuvre à la russe.
En plat, Madame Aubourg vous a mijoté
filet de sole à la cardinale.
Bien.
Sel de Pré-Salée Renaissance. Caille sous baron. Perdreau flanqué de Bécassy.
Parfait. Poisson
et écailles.
Parfait.
Oh, non, c'est bon. Salade cœur de laitue, fond d'artichaut clamart, poularde à la hongroise.
Et pour les desserts,
sorbet au chéri brandy, pêche à l'oriental.
Des fruits,
corbeille de friandises.
Justement, celui qu'on entend faire ici l'inventaire de ces plats savoureux, c'est Yvan Durus, le comédien. Ben, on pourrait peut-être lui demander de nous parler de sa 4e de couverture à lui, non ?
Bon, Yvan Durus, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on va imaginer cette 4e de couverture très personnelle. À la suite, évidemment, du beau spectacle qu'on a vu à Gonneville le week-end dernier. Et je vais laisser Yvan raconter à sa façon l'histoire de ce projet sur les vieux plats à la carte. Voilà, merci Yvan.
Voilà, vous venez de donner le titre du spectacle. Les vieux plats, c'est une auberge, ça a été un restaurant-hôtel à Gonneville-la-Mallet, et ça a marqué un siècle de Gonneville-la-Mallet. Ça a commencé vers, je la connais la date exacte, c'est 1893 par Edmond Aubourg, et ça a été suivi sur 3 générations. Et ça a changé Gonneville-la-Mallet parce que tout d'un coup des personnalités du monde artistique sont venues à Gonneville-la-Mallet, et puis c'était le début de l'impressionnisme. Les peintres comme Monet sont sortis de leur atelier pour aller découvrir Étretat, les falaises, la mer, tout ça était très chouette. Et à Gonneville-la-Mallet, on leur offrait de quoi se restaurer et puis l'hébergement, enfin, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Voilà.
On a assisté à ce spectacle, est-ce qu'on peut, on pourrait en dire un peu plus sur le titre ? Pourquoi les vieux plats à la carte ?
Alors il se passe qu'à ce moment-là, vers 1880, les cartes postales ont été inventées. Il se trouve que la famille Aubourg est une famille de commerçants qui a le sens du commerce, qui a le sens de la fête. Et donc, ils proposent à leurs clients des cartes postales par paquet de 10, comme ça. Et les gens se mettent à écrire parce qu'ils passent leur séjour à Gonneville-la-Malais et ils ont plaisir à le faire savoir à leurs proches, à leur famille, aux gens qui n'étaient pas à Gonneville. Et du coup, ils envoient des cartes postales, ce qui fait que Gonneville-la-Malais, l'hôtel des vieux plats, commence à être connu dans la France entière. Voilà pourquoi ça s'appelle « À la carte ». Donc, Denis Gancel, qui a écrit la pièce, a récupéré un certain nombre de documents, de cartes postales et de choses comme ça, qu'on projette pendant le spectacle. Et ces cartes postales qui ont été écrites, on les fait lire, on les fait tirer au hasard par certains des spectateurs. On en lit une petite dizaine, hein. C'est pas l'ensemble du spectacle. Mais en tout cas, ça permet au spectacle de se renouveler tous les soirs.
Voilà, oui, de se construire. Alors moi, j'avais pensé aussi à la carte, parce que quelquefois au restaurant, on mange le menu ou alors on mange à la carte, en plus des cartes postales, évidemment. Mais bon. Et l'ambiance générale, la tonalité générale du spectacle, qui a rencontré un grand succès, hein, d'ailleurs.
Alors, la tonalité du spectacle, ça a été de retranscrire cette ambiance des soirées au vieux plat. Parce que la particularité d'Edmond Aubourg, le premier, celui qui a acheté l'hôtel de France à sa tante pour créer les vieux plats, c'est qu'il voulait absolument que le lieu soit convivial et organiser des concerts. Il voulait que les gens mangent bien et qu'en plus, on puisse s'amuser le soir. Donc il a mis en place des concerts. Et quand Denis Gancel a eu l'idée de ce spectacle, on s'est dit, mais ce qu'il faut retranscrire, c'est aussi l'ambiance des vieux plats. Donc dans ce spectacle, ça chante, ça rit, ça lit des bouts de texte, des cartes postales, mais aussi des mots d'auteur, et puis ça boit du cidre.
Ouais, c'est formidable. Donc finalement, si on devait donner une dernière phrase pour inviter le public à vous suivre et à revenir dans les prochaines,
représentations,
voilà, on dirait quoi alors?
Ben, venez et soyez les bienvenus.
Merci, bon, merci.
Et les retardataires pourront retourner à Gonneville en avril pour la reprise du spectacle et retrouver les invités célèbres des vieux plats qui venaient ici pour voir la mer, pour la peindre, des Parisiens qui avaient envie de falaises, de vagues, qui se fracassent devant le casino désert. Tiens, tiens, comme à Ostende. Mais oui, comme à Ostende, qu'a si bien chanté Jean-Roger Cossimon.
On voyait les chevaux de la mer qui fronçaient la tête la première, qui fracassait la crinière devant le casino désert. La barmaid avait 18 ans, et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de me noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps, de ses yeux taillés en amande. Ni gris, ni vert, ni gris, ni vert, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attirent dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient des rigolos, des tourangeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande.
Voilà une chanson écrite par Jean-Roger Cossimon et qui figurait sur le premier album de Léo Ferré, Paname. Une chanson que Ferré n'a cessé de chanter durant toute sa carrière d'ailleurs. Une chanson qui nous ramène dans des troquets oubliés, des bistrots où on vient chercher un peu de chaleur humaine, des ports, des quais, où des gars oublient leur solitude auprès des filles de joie. Et un peu avant Cossimon, un écrivain amoureux du Paris de son époque, le Paname de Ferré, avait laissé des pages pleines de poésie sur la ville qu'il aimait tant. c'est Henri Calais, un écrivain oublié, un poète du quotidien, modeste rêveur des rues, des bistrots. Eh bien, voilà le moment d'ouvrir notre parenthèse littéraire. De ma lucarne, c'est le titre qu'Henri Calais avait choisi pour rassembler avant de mourir en 1956 ses chroniques parues dans la presse depuis l'immédiate après-guerre. Et que voit-il de sa lucarne ? Sa ville, Paris, l'histoire d'une vieille liaison qui ne finira qu'avec lui. Et tiens, que dit la quatrième de couverture ?
Henri Calais, de ma lucarne. Il n'est ici question que d'amour. De l'amour qu'un écrivain porte à une ville, sa ville. Calais est uni à Paris. C'est l'un des thèmes essentiels de son œuvre. Il entend en montrer toutes les faces, les plus cocasses comme les plus pathétiques, mais surtout par une apologie du quotidien qui dévoile tout, la grandeur et le moindre. Calais hausse jusqu'à sa vraie hauteur la ville de son pas et de ses rêves. Les lieux pittoresques abondent, l'étrange est là, prêt au contrepoint. L'art du conteur, qui se donne libre cours dans De ma lucarne, compose une sorte de périple rêveur, au cours duquel Calais opère dans Paris, vu de haut, des préemptions pleines de tendresse.
Un périple rêveur plein de tendresse ? Eh bien, on a envie d'en savoir plus, évidemment, et de lire une de ses chroniques, parue dans Combat en 47.
Tout se rouillait peu à peu. Quelques jours après la grève des transports en commun, c'est déjà une vieille histoire, je me suis accordé un voyage en autobus d'un bout à l'autre de la ligne 38, depuis la porte d'Orléans jusqu'à la gare de l'Est. Mon père m'accompagnait. J'aime bien me balader avec lui dans Paris qu'il connaît mieux que moi. Nous sommes amoureux de la même ville. À nous deux, nous avons plus de 100 ans. Nous remontons loin dans le passé. Cela nous fait double souvenir. Nous avions le vague projet d'aller voir le canal Saint-Martin. Le 14e arrondissement est un arrondissement très intéressant, mais il n'y passe ni fleuve, ni rivière, ni canal. C'est un arrondissement aride. Il faut le dire. Et il nous prend quelquefois l'envie de regarder de l'eau. Il s'était mis à pleuvoir à nouveau. Arrivés au rond-point de la Villette, nous avons rebroussé chemin par le quai de Gemap, sur l'autre rive. Les quais sont bordés d'entrepôts, d'estaminets, de maisons sales. Nous étions à peu près seuls. Mon père me dit que l'on rencontrait des prostituées par là, au temps de son adolescence. On eût pu se croire dans un port envasé, abandonné, sans navire, sans marin, sans marchandises, sans piano mécanique, sans fille de joie. Mais où sont-elles ? On aurait grand besoin d'elles aujourd'hui, de leur joie. Et où sont-elles allées, les péniches ? Nous avancions entre les reflets et les flaques, sur les pavés brillants. J'ai déchiffré une vieille inscription sur une vitre. Le vin, le café, le lait, la bière, 10 centimes. Au numéro 102, j'ai vu une autre enseigne, en lettres bleues, sur une façade plate. Hôtel du Nord. Eugène Dabi a vécu là, derrière ce mur, en face de cette sorte de square et de ce bâtiment pour les secours aux noyés, près de ce canal Saint-Martin. Il a joué, il a grandi, il a regardé l'eau dormante. Il a marché, il a traversé le pont tournant sur ce même trottoir de bois. Nous sommes entrés dans le bistrot voisin de l'hôtel, qui s'appelle la Chope des Singes. Nous avons bu un verre de bière à sa santé, je veux dire à son bon souvenir. J'ai parlé un peu de lui, de façon imprécise. Nous avons poursuivi notre ronde. Pour essayer de nous remettre en gaieté, nous avons décidé de nous offrir une portion de frites chez le petit marchand qui tient une échoppe à l'angle du faubourg du Temple et de la rue de la Folie-Méricourt. Les frites ont refroidi très vite. Celles du dessous du cornet manquaient de sel, et la graisse figeait au palais. Nous cherchions une station de métro. Mon père pensait encore au coup qu'il avait reçu sur les yeux 40 ans auparavant, et moi à Eugène Dabi.
Merci Hervé et merci Chet Baker qu'on écoute en ce moment. Chet Baker qui avait enregistré ce You on the Night and the Music en 58. Quel programme! Mélancolie pleine d'élégance, trompette de velours et Bill Evans au piano. Et Eugène Dabi dans le texte d'Henri Calais. Eugène Dabi, c'est l'auteur de l'inoubliable Hôtel du Nord que Marcel Carné portera à l'écran 2 ans après Le Quai des Brumes du Havre. D'un quai à l'autre, d'un bistrot à l'autre, on suit toujours le même chemin, celui qui mène à ces endroits chaleureux où on trouve un peu de réconfort. Comme Cosimon qui chante la bière, les frites, les filles dans les vitrines. Les filles de joie, avait écrit Calais. Et disait-il, on aurait grand besoin d'elles aujourd'hui, de leur joie. Eh bien, bien sûr, on aurait bien besoin de joie pour accueillir l'année nouvelle. Alors, où sont les joyeuses perspectives de janvier 2020? Eh bien, les voilà, sortons nos agendas, vite, vite. Ah, le mois de janvier est plein de promesses. Au théâtre d'abord, aux quatre coins de la région, par ici la sortie. Cap sur Fécamp et honneur à la radio puisque Le Passage propose le 10 janvier une fiction radiophonique en direct, Piletta Remix. On note parce que c'est tout à fait pour nous ça la radio, n'est-ce pas Albatros? Même chose pour l'annonce des deux compagnies qui font sans le savoir un clin d'œil à l'argot parisien quand pour oublier le turbin, on s'accoude aux zingues d'un troquet. C'est la compagnie Barbès 35 qui présentera le 23 janvier à Saint-Valery Crocodile, le périple éprouvant d'un enfant sauvé de l'exil. On est loin du canal Saint-Martin, mais Barbès, évidemment, c'est Paris. Un autre titre joue sans aucun doute sur l'ambiguïté du mot choisi par la troupe du Petit Théâtre de Pins et Boxon. Un spectacle où il sera question de boxe et d'invitation à monter sur le ring, mais le S final entre parenthèses nous autorise à penser à ce mot d'argot qui renvoie, non pas dans les cordes, mais dans un bazar incroyable, ou plus si on cherche la joie d'Henri Calais. Ce sera le 10 janvier à Lillebonne. Et si on cherche le bord de mer, cap sur Deauville cette fois, pour voir le 17 janvier au Casino une version actualisée de l'éternel Oncle Vania de Tchekhov. Deauville, les planches, Chabalabada, fini le quai de Gemap, on déroule le tapis rouge pour aller au Casino et pas question d'être mal fagoté. On déroulera aussi le tapis rouge pour célébrer un héros sur scène. Le Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, qui a remporté contre toute attente il y a plus de 120 ans, un triomphe jamais démenti. À l'époque où Ibsen réinvente le théâtre en Norvège, Rostand immortalise des alexandrins éblouissants qu'on a encore tous en tête aujourd'hui. Et un jeune auteur contemporain, Alexis Michalik, s'en est emparé pour réécrire il y a 3 ans l'histoire de cette pièce, l'histoire d'Edmond, c'est le titre, qui vous attend le 28 janvier aux Trois Colombiers de Notre-Dame de Gravenchon. Et Alexis Michalik a remporté un succès colossal avec cette déclaration d'amour au théâtre, au point d'en faire cette année un film aussi éblouissant que sa pièce. Alors si vous aimez Cyrano, ce héros, ce poète, rêveur, amoureux toute sa vie de la belle Roxane sans en avoir rien dit, si vous aimez les beaux alexandrins, ah, j'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et surtout, si vous aimez le théâtre, courez-y. Si vous préférez l'opéra, sans pouvoir vous y rendre, n'oubliez pas que des cinémas en retransmettent régulièrement dans les conditions du direct. Alors, après le théâtre filmé de Michalik, rendez-vous au cinéma Les Arts de Montivier pour voir Le Trouvert de Verdi, enregistré aux Arènes de Vérone, un amphithéâtre romain pouvant accueillir 20 000 personnes. Le Trouvert, encore une histoire de poète, chantée cette fois. Le 16 janvier à Montivier, ou le 5 avril au studio au Havre. Et si après tous ces levées de rideaux sur scène, on avait envie de trouver de l'énergie chez des héros plus populaires, des héros de BD, des héros de papier, eh bien, ils nous attendent tout le mois de janvier à Caen, dans la splendide bibliothèque Alexis de Tocqueville. Les super-héros débarquent. Eh bien, on arrive. Pour retrouver les plus célèbres d'entre eux, Batman en tête et Catwoman, car des super-héros qui vivent une super histoire d'amour, on adore. Et puis, on aime toujours autant pénétrer dans le magnifique vaisseau aérien que Rem Koolhaas, le célèbre architecte néerlandais, a posé à Caen sur la presqu'île comme écrin à la Bibliothèque Nouvelle. Un écrin surprenant d'ailleurs, car le visiteur a toujours l'impression que ce bâtiment magnifique met en scène le paysage extérieur. C'est une prouesse dont on ne se lasse jamais. Alors, allons faire un tour à Caen en janvier. Sinon, en janvier, on a bien noté les deux événements incontournables qu'on retrouve avec plaisir chaque année. Deux festivals. Du 15 au 21, Télérama fait son cinéma et propose aux retardataires de voir les meilleurs films de 2019. Et il faudra choisir parce qu'en même temps, du 16 au 19 au Havre, ce sera la fête des gourmands, doublement cette année, puisque le festival littéraire Le goût des autres sera une initiation aux gourmandises, littéraires ou pas, sous toutes les formes, et aux quatre coins de la ville. On va se lécher les babines. Des lectures, des concerts, des rencontres, du théâtre et des expériences culinaires, évidemment. Sans oublier l'exposition « Faste et saveurs à bord des paquebots » proposée par l'association French Lines au Havre. Des menus, des photos et de la vaisselle de rêve. Et la liste des invités du festival est bien alléchante. Julie Dupardieu, Agnès de Sarthe, Marie Darieussecq, Cécile Coulon, Olivier Adam, et pour lire les calendriers du facteur préféré du Pays de Caux, Robert Cottard, Jacques Bonnefay. Enfin, pour clore en beauté cette nouvelle édition qui promet de célébrer la joie de vivre, eh bien, c'était bien ce qu'on cherchait en janvier, justement. Les chanteurs seront au rendez-vous et on aura le choix. Soit le thé dansant spécial Joudassin le samedi 18, ou le concert de clôture au Magic Mirror avec Alex Baupin, le 19. Parce qu'en France, tout finit par des chansons. Et le mois de janvier aussi. Alors le 25, on ira à Ponteau de Mer pour applaudir la grande vedette de l'année 2019, celui qui a été invité partout, qui a été encensé, à juste titre évidemment. Ce chanteur, compositeur, auteur, interprète et écrivain, crooner énigmatique, voix de velours, mèche rebelle, guitariste élégant et chaleureux, eh ben oui, c'est Bertrand Belin bien sûr. Et quoi de mieux pour commencer l'année nouvelle qu'un chanteur qui veut nous dire des choses nouvelles et qui nous les murmure à l'oreille. Alors après les retours pleins d'émotions vers le passé des vieux plats, la nostalgie du Paris d'Henri Calais, des films de Marcel Carnet, des bistrots oubliés, on tourne définitivement la page de 2019 et on plonge dans les choses nouvelles qu'on va adorer en 2020.
Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur, je chéris ton cœur. Adoré, dans un coin d'architecture manqué, un méandre de la cité. Allons bon, cachant ta ma raison que du temps a passé. Je chéris ton cœur. Adorer. cette nuit je pars. Je pars seul. Je te parle tout seul pour te dire des choses nouvelles.
Alors merci à tous, merci Yvan, merci Hervé, merci Sarah, bonne année et rendez-vous début février pour la 4e édition de la 4e de couverture sur Radio Albatros.
C'était la 4e de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.